Pour le message de ce soir, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8, nous allons voir une série de trois miracles, de trois récits des miracles de Jésus qui suivent immédiatement après le sermon sur la montagne. Et ces événements se passent donc dans la région de Galilée. C'est l'endroit où Jésus a grandi, où il a travaillé, où il a exercé aussi une grande partie de son ministère public. Et les miracles que nous allons voir jouent plusieurs rôles dans la mission de Jésus et aussi dans le message de l'évangile selon Matthieu. Mais une des choses qui montre plus que tout le reste, c'est qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu est vraiment arrivé. Jésus proclame depuis le début de sa prédication que le royaume de Dieu est proche, que le royaume de Dieu est sur le point d'entrer dans le monde et qu'il est en train d'appeler les gens à la repentance. Et les miracles, entre autres, servent à montrer, à manifester la réalité de ce règne, de ce royaume de Dieu. Et donc, le passage que nous allons voir est important, parce que nous savons, c'est une chose de dire des belles paroles, n'est-ce pas? Comme Jésus le fait dans le sermon sur la montagne. Mais c'est autre chose de les mettre en pratique. Et nous allons maintenant voir le maître, l'enseignant, en tant que le médecin. D'accord? L'enseignant spirituel comme le médecin, des corps et des âmes aussi. Et donc, nous lisons Matthieu chapitre 8, et ce sera les versets 1 à 17, ces trois récits. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, de grandes foules le suivirent. Un lépreux survint, qui se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus était entré dans Capernaum, un centenier l'aborda et le supplia, disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. » Jésus lui dit, « Moi, j'irai le guérir. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne mérite pas que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des chefs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus, plein d'admiration, dit à ceux qui le suivaient, « En vérité, je vous le dis, je n'ai trouvé chez personne, même en Israël, une si grande foi. Or, je vous le déclare, plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et se mettront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on lui amena plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit la parole du prophète Ésaïe. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bon, quelle journée, n'est-ce pas? On le voit le matin, qui prêche sur la montagne. Peut-être il passe presque toute la journée là-haut. Il descend et maintenant ce sont les malades qui viennent à lui. Et partout où Jésus va, il va rencontrer des gens malades, des gens affectés par des infirmités. Et chaque fois, il va les guérir. Et j'aimerais juste qu'on regarde quelques idées assez simples, je crois, mais vraiment fondamentales que ces miracles nous enseignent au sujet de Jésus et au sujet de Dieu. Et la première chose, c'est Matthieu qui le souligne lui-même pour nous, pour qu'on ne rate pas le message essentiel. C'est que Jésus est venu pour se charger de nos infirmités et de nos péchés. La référence au verset 17, c'est au passage que j'ai lu avant le repas du Seigneur dans Ésaïe 53. Et je vais juste relire les versets 4 à 6, d'accord? Parce que quand Matthieu fait référence à ce passage, il pense plus juste ces mots, d'accord? Mais le passage en entier. Ésaïe 53, 4 à 6, où nous lisons « Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous, nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Et en constatant et aussi en méditant sur la vie de Jésus, Matthieu se rend compte que ces miracles, c'est plus que Jésus qui est en train juste de guérir tous les gens qui croisent, d'accord, pour montrer qu'il a beaucoup de pouvoir. C'est vraiment Jésus qui est en train de s'identifier et de montrer qu'il est le serviteur annoncé dans Ésaïe 53. Les miracles sont donc à comprendre pour nous, premièrement comme l'accomplissement de la prophétie dans Ésaïe 53, mais aussi comme un signe de la vraie mission de Jésus, qui n'est pas juste de se concentrer sur des maladies physiques ou de donner un enseignement moral exemplaire, mais plutôt d'ôter notre maladie spirituelle et nos péchés et nos fautes qui nous séparent de Dieu. Ça, c'est le message dans Ésaïe 53, n'est-ce pas? Les maladies ou les faiblesses, en fonction des traductions que nous avons, c'est pas juste des maladies physiques. Il est vraiment en train de parler de cette maladie profonde, au fond de chacun d'entre nous, qui s'appelle péché. Et cette maladie qui a un symptôme, c'est la mort, avec des symptômes secondaires qui sont le mal et la souffrance et l'injustice dans nos vies et dans le monde. Les guérisons de maladies physiques ont joué un rôle très 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 important dans le ministère de Jésus. Mais le vrai problème de l'humanité, ce n'est pas la maladie physique. Même si nous avons raison d'aider ceux qui sont malades, de lutter contre la maladie, de prier pour la guérison, toutes ces choses sont justes et bonnes. Mais notre vrai problème, ce n'est pas d'être malade. Vous savez, on peut vivre toute sa vie en bonne santé et quand même rater l'essentiel. Être séparé de Dieu et de vivre esclave du péché. Jésus vient en tant que médecin et celui qui offre le remède au vrai problème de l'humanité qui est le péché. Aucun autre médecin ne peut nous guérir du péché. Aucun remède ne peut nous libérer du poids de nos fautes, sauf Jésus. Il est le médecin qui peut nous guérir. Et le remède qu'il offre, c'est son propre sacrifice sur la croix. Et donc, Matthieu nous invite à voir en ces guérisons plus qu'une manifestation du pouvoir de Jésus sur la maladie, même si c'est absolument vrai. Nous voyons plutôt un avant-goût de l'accomplissement de la mission de Jésus, de l'accomplissement du dessein de Dieu. Comment Jésus va ôter la saleté, l'impureté et la maladie du péché de nos vies par la croix. Et donc on peut regarder un des miracles en particulier qui montre cela. Ce premier miracle qui est la purification de la lèpre. Elle préfigure notre purification de nos péchés par Jésus-Christ. La guérison du paralytique préfigure notre libération de l'emprise du péché qui nous empêche de vivre comme Dieu le veut. Et même la guérison de la belle-mère nous rappelle du péché. Parce que je ne sais pas comment c'est pour vous, mais si moi j'étais très malade et très fiévreux pendant des jours, quand je vais mieux, c'est pas « je vais vite travailler au jardin et puis courir 10 km ou autre chose, n'est-ce pas ? » On est claqué, on est épuisé après la maladie. Mais ce n'est pas comme ça pour la belle-mère, de Pierre. Elle est guérie et puis elle se lève tout de suite, elle se met à servir, c'est-à-dire elle est pleinement restaurée. Ce n'est pas une demi-guérison ou un rétablissement, mais il faudra encore faire du travail pour revenir à 100%. Ramener à la vie. Et de nouveau, Dieu y pardonne, mais il vivifie en Jésus-Christ. Il nous amène à la plénitude de la vie physique, mais spirituelle surtout. Pour le lépreux en particulier, je crois que c'est vraiment un exemple et un récit frappant. Parce que le problème de la lèpre, c'était pas juste qu'on avait des maladies de la peau, peut-être même des membres qui allaient tomber ou autre chose, ou que ça grattait tout le temps. Le problème en Israël de la lèpre, c'était que c'était une impureté rituelle. Et l'impureté, d'accord, ce n'est pas le péché. Dans l'Ancien Testament, c'est très clair que l'impureté et le péché sont deux choses différentes. L'impureté, c'est tout ce qui sépare l'homme de la présence de Dieu, l'homme ou la femme, les êtres humains. Mais par contre, l'impureté servait de signe ou de manifestation visible de la réalité du péché. L'impureté rituelle était un rappel pour les hommes et les femmes de ce que le péché nous faisait. Et donc les personnes qui étaient lépreuses n'étaient pas forcément pécheresses, mais elles portaient dans leur corps le signe pour tout le monde de ce que le péché fait à chacun d'entre nous. Mais pour le lépreux, donc, il se retrouvait séparé de la présence de Dieu. Il ne pouvait pas aller au temple, il ne pouvait pas offrir des sacrifices, il ne pouvait pas participer aux fêtes ou aux prières communes pour venir à Dieu. Il était coupé de la présence rituelle, en tout cas, de Dieu. Et en plus de cela, il était coupé de la communion avec le peuple de Dieu. Les lépreux devaient vivre en dehors du camp ou en dehors de la ville. Ils devaient vivre à part, seulement dans la présence des autres lépreux. Et tout cela, c'était une conséquence de l'impureté. En purifiant le lépreux, donc Jésus fait plus que guérir une maladie. Et d'ailleurs, une maladie. Et d'ailleurs, Matthieu ne dit pas « il guérit le lépreux », il dit « il a purifié le lépreux ». Et il y a une différence importante. En le purifiant, en le rendant pur, Jésus offre plus qu'une guérison, mais il restaure premièrement la communion de cet homme avec Dieu. Il enlève l'obstacle qui le séparait de la présence de Dieu. Et deuxièmement, il rend possible la réintégration de cet homme dans le peuple de Dieu. Celui qui était du dehors est maintenant du dedans. Et Jésus le fait d'une manière assez remarquable, n'est-ce pas? Il le fait en touchant l'homme. Et nous voyons ce contact où en Jésus-Christ, Dieu descend vers l'homme. Il touche l'intouchable, les marginalisés, et il purifie, et il rend la communion avec Dieu possible. Alors que par les moyens de l'homme, c'était impossible. Hein. On ne pouvait pas se guérir soi-même de la lèpre. C'était impossible. Bon, c'est ce que Jésus est venu faire, n'est-ce pas? Par la croix, il ôte le mur de séparation entre nous et Dieu. Il purifie, il enlève les conséquences du péché qui nous sépare de Dieu. Il nous permet de former un peuple, non seulement pour les Juifs, mais même pour nous les païens, qui ne faisions pas partie du peuple de Dieu. Ils sont intégrés. Et puis, il dit aussi, il y a ce contact qui est présent, et il dit, je veux que tu sois pur. Et nous pouvons nous poser donc la question, est-ce que nous sommes, comme le lépreux, peut-être pas au niveau physique, mais au niveau spirituel, des gens qui cherchent sans cesse la purification et le pardon de Dieu? Dieu nous avertit dans sa parole que le péché est une maladie mortelle, une maladie qui est incurable sans Jésus. Et est-ce que nous prenons cet avertissement au sérieux? Trop souvent, nous entendons ce message et nous sommes tentés de le croire, mais ce message de Satan qui dit que le péché, ce n'est pas vraiment grave. Ce n'est pas vraiment quelque chose qui cause des problèmes. En fait, c'est quelque chose qui pimente notre vie un peu, d'accord? Qui peut nous aider à prendre les devants sur les autres, qui peut nous donner un peu plus de sagesse, un peu plus de plaisir. Mais Jésus nous met en garde. On pense à Jean chapitre 8, verset 34, où Jésus dit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Et il a dit même avant à ceux qui l'écoutaient « vous allez mourir dans vos péchés. » Okay? Cette mort qui vient. Est-ce que nous désirons la purification? Est-ce que nous désirons le pardon? Si nous reconnaissons le besoin que nous avons, bon, Jésus est toujours prêt à offrir ce pardon qui est là. Et deuxièmement, si nous désirons la purification, où allons-nous la chercher? Jésus dit que la réponse, c'est en lui-même. Il est celui qui pardonne et qui purifie avec libéralité, hein, sans mesure. Et ça, c'est sa volonté. Il nous invite à dépendre de lui, et pas de notre propre mérite, de nos bonnes œuvres ou de nos bonnes actions. Il ne nous dit pas « vous devez être à la hauteur de mon pardon », il dit plutôt « je veux vous pardonner, soyez purs ». Et n'est-ce pas merveilleux? Et donc cette première chose qui est vraiment fondamentale, c'est guérison, de nouveau, prépare la vraie guérison que Jésus amène, que Dieu veut nous donner en Jésus-Christ. Mais il y a peut-être deux, trois autres choses auxquelles on peut réfléchir. Bon, peut-être deux, hein, je ne vais pas vous faire souffrir trop longtemps. Remarquons quand même, l'évangile de Jésus, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Okay. C'est dur de ne pas lire ces histoires et ne pas être touché par toute la joie et tout le bien que Jésus apporte partout où il va. Partout où Jésus a passé, nous avons la joie de la guérison, du rétablissement et de la communion qui est retrouvée. Et insistons de nouveau sur le fait que Jésus veut que nous voyons ces miracles comme des signes d'une réalité plus grande. D'accord? Pas juste comme des manifestations de pouvoir. Jésus vient et il amène le pardon des péchés et la victoire sur la mort. Et cela, c'est une bonne nouvelle. Et de nouveau, il y a un autre message que nous entendons trop souvent, qui veut nous faire croire que l'évangile, c'est une mauvaise nouvelle, qui veut nous enlever notre joie, nous disant de ne pas pécher, qui veut nous faire vivre dans la crainte en nous parlant des réalités de la mort et du jugement, et qui veut aussi que nous ayons honte de l'évangile, plutôt que nous soyons joyeux de l'évangile. Mais nous devons nous rappeler que la réalité, que Jésus vient et il amène une bonne nouvelle. Il amène une nouvelle de joie et de pardon et de réconciliation et de restauration. Pour parler de nouveau un peu du pouvoir du péché, nous reconnaissons le problème avec le cancer. Il n'y a personne, si on leur dit « j'ai appris que j'ai un cancer » et tout le monde dit « ah, c'est génial » ou « oh, c'est pas grave, vous savez, un peu de cancer, pas beaucoup de cancer, pas de souci ». Mais on a cette tendance avec le péché de ne pas reconnaître sa vraie gravité. Mais nous voyons, non seulement dans les Écritures, mais dans nos vies, dans nos familles et autour de nous, la puissance destructrice qu'a le péché dans le monde. Et pas seulement parce qu'il y a cette fin de la mort, que tout péché aboutit à la mort, mais parce qu'elle peut rendre, et elle rend, malheureux esclaves. Nous voyons autour de nous donc des conséquences du péché dans les relations brisées. Parce que on n'est pas fidèle à nos engagements, à nos amitiés, à nos époux ou à nos épouses. Nous le voyons dans des rivalités, où on n'est pas capable de vivre dans l'harmonie les uns avec les autres, parce qu'on voit les autres comme des menaces. Les regrets à cause des péchés que nous avons faits contre les autres ou contre Dieu, des regrets que les gens portent toute leur vie. Nous voyons que les forts se permettent d'abuser des faibles. Et de nouveau, ça c'est une manifestation du péché, n'est-ce pas? Et nous vivons dans un monde qui est en manque de sens, qui est en manque de pardon, qui est en manque d'amour et qui est en manque de communauté. Et tout le monde recherche ces choses, d'accord? Même si on a de la peine parfois à les nommer. Tout le monde a besoin de cet amour. Tout le monde a besoin de savoir que le pardon est possible, qu'ils peuvent être réconciliés. Et Jésus vient et dit « Je vous offre toutes ces choses. Je vous offre l'amour parfait et complet de Dieu, mais aussi l'amour entre les êtres humains. » Jésus vient et il offre le pardon et la réconciliation. Jésus vient et il offre la paix. Jésus vient et il donne une communauté dans laquelle nous pouvons vivre. Il donne la joie, la confiance, le réconfort, l'espérance. Et vous savez, si nous avons ces choses, on peut faire face à beaucoup d'épreuves dans la vie. Si nous avons l'espérance et la joie et la paix de Dieu, on peut souffrir des maladies terribles, on peut faire face à des persécutions, à des injustices qui nous font souffrir. Mais nous nous en tirons mieux que si nous n'avions pas ces choses, même avec le confort et les autres. Et Jésus vient et il amène quelque chose de formidable, une bonne nouvelle. Et juste, peut-être on a tellement l'habitude d'entendre l'évangile qu'on oublie parfois. Je sais que mon père, ça fait des années maintenant, il parlait à un frère à l'église à Genève qui était converti assez récemment à l'époque. Et dit, bon, comment ça va au niveau de ta foi? Et ce frère a dit, tu sais, je ne sais pas ce que je faisais de ma vie avant de devenir chrétien. Et ce n'était pas quelqu'un qui avait bousillé sa vie par des mauvais choix, par toutes sortes de péchés, on dirait, qui frappent les yeux. D'accord? Quelqu'un, on dirait, très bien, une bonne vie de famille et tout. Mais quand il comparait sa vie avec Christ, à tout ce qui était venu avant, à la joie, au pardon, à la réconciliation, à l'espérance qu'il avait, il dit, toute ma vie, tout ce qui était avant, je dis, mais qu'est-ce que je faisais de ma vie? Tellement de joie qui est amenée. Et Jésus nous montre par ses miracles la joie de l'évangile, la bonne nouvelle. Et l'appel pour nous, c'est d'avoir ce partage qu'avait Pierre. Bon, je crois, il semblerait que Jésus allait passer la nuit chez Pierre. Mais vous voyez, Pierre amène Jésus vers quelqu'un qui a besoin de Jésus et cette personne est guérie. Le centenier vient et il bénit quelqu'un d'autre par sa foi, même pas sa propre foi. Est-ce que nous avons à cœur d'amener des gens à connaître la joie de Jésus, à connaître cette bonne nouvelle? Je sais que si, pour revenir à l'exemple du cancer, si je trouvais demain un remède miracle pour le cancer, et qui en plus était gratuit, qui ne coûtait rien, je ne vais pas me priver d'en parler à tout le monde. Et peut-être nous perdons de vue à quel point Dieu donne un don qui a une valeur inestimable en Jésus. Il ne faut pas oublier à quel point c'est une bonne nouvelle. Bon, une dernière chose pour terminer. C'est que, en regardant Jésus à l'œuvre, pas juste dans ses paroles, mais Jésus à l'œuvre, nous voyons Dieu à l'œuvre. Et donc, en regardant le caractère de Jésus-Christ, nous connaissons le caractère de Dieu. Nous pouvons le décrire. Dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 1, au verset 14, donc c'est vraiment au tout début de l'Évangile, Jean dit ceci. « La parole, c'est-à-dire Jésus, a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique, venu du Père. » C'est-à-dire quand Jésus est venu et quand il a vécu parmi les hommes, on a pu voir la gloire de Dieu en action. Et ces miracles de Jésus, c'est Dieu qui nous montre ce qu'il pense des souffrances humaines, ce qu'il désire pour nous. Et c'est dur de ne pas être touché par l'échange entre Jésus et le lépreux. Le lépreux qui vient, il a confiance en la puissance de Jésus. Ça, il le sait. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Mais il ne sait pas encore les intentions de Jésus à son égard. Et vous savez, quand on pense à Dieu et à son existence, certaines personnes peuvent nous dire, et avec raison dans leur réflexion, peut-être que Dieu existe, mais moi je veux savoir ce qu'il veut de moi et ce qu'il pense de moi. Si Dieu est là, quelles sont ses intentions à mon égard? Donc si nous voulons la réponse à cette question, il faut regarder à Jésus. Et la réponse de Jésus c'est, je veux de toi, je veux être en communion avec toi, je veux te rendre pur. Jésus n'est pas indifférent face aux souffrances, même des plus marginalisées du monde. Il n'est pas indifférent même lorsque les plus grands pécheurs souffrent les conséquences de leurs péchés. Jésus désire venir et guérir et sauver et amener à la communion. Et puisque Jésus le veut, nous savons que Dieu le veut aussi. Ça, c'est notre conviction. Si Jésus prend soin des malades, nous savons que Dieu se soucie des malades, même si parfois nous prions pendant des semaines ou des années et nous ne voyons pas une réponse. La raison que je sais que Dieu se soucie des malades, c'est à cause de Jésus. La raison que je sais que Dieu peut me pardonner, c'est parce que je vois Jésus qui pardonne à des gens qui ne sont pas à la hauteur. Et la raison que nous savons que Dieu nous aime, c'est parce que Jésus nous a aimés. On parle d'un terme qui s'appelle la théologie. La théologie, c'est la science de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît Dieu? Bon, Jésus nous dit qu'il y a une source de théologie qui est plus importante que tous les autres. Et ça, c'est Jésus lui-même. En Jésus, nous connaissons Dieu. Si vous voulez savoir qui est Dieu et quelles sont ses intentions à votre égard, regardez Jésus. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est une des raisons, je crois, que les évangiles sont si pleins des actions de Jésus. C'est pas juste ses paroles et puis sa crucifixion. Non, c'est Jésus à l'œuvre, parce que c'est Dieu à l'œuvre. Et nous pouvons le connaître. Alors, quand on parle au sujet de Dieu, et quand on veut dire des choses au sujet de Dieu, ou on nous dit des choses au sujet de Dieu, toujours posons-nous cette question. Est-ce que ça correspond à Jésus? C'est une très bonne manière de réfléchir au sujet de Dieu. Et lorsque nous doutons de notre relation avec Dieu. Peut-être c'est parce que nous luttons avec des péchés, ou nous ne nous sentons pas à la hauteur. Ou peut-être que nous savons intellectuellement que Dieu nous aime, mais on ne le sent pas émotionnellement. La réponse, c'est de regarder à Jésus. De voir comment lui, il a vécu, et comment lui, il était. Et quelles sont ses paroles pour nous. Ça, c'est la meilleure théologie, et ça, c'est le meilleur réconfort. Pas nos émotions, même si elles sont importantes, pas nos bonnes œuvres, même si Dieu attend de nous une vie qui est de plus en plus sainte, mais c'est le caractère et la personne de Jésus. Bon, nous voyons donc Jésus qui a le pouvoir, mais aussi le désir de pardonner et de sauver. Nous voyons que sa venue est une bonne nouvelle, digne d'être partagée avec les autres. Et nous voyons que Jésus manifeste un Dieu d'amour, de bonté et de joie. La question pour nous, c'est comment est-ce que nous le recevons? Est-ce que nous venons à lui avec humilité, en demandant sa grâce qu'il est fidèle pour nous donner? Est-ce que nous mettons notre confiance et notre foi en lui comme le centenier? Est-ce que nous allons aussi amener d'autres à le connaître, comme l'a fait Pierre? Bon, ma prière pour nous en tant qu'Église, et pour chacun d'entre nous, c'est que nous répondions oui à ces questions. Non seulement ce soir, mais tous les jours et chaque heure de notre vie, pour amener ce grand médecin au monde.